C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons des conséquences de la surpêche qui est en train de vider l'océan de sa biodiversité et de mettre en danger la sécurité alimentaire de millions de personnes qui en dépendent. C'est un phénomène mondial. Avec nous pour en parler, deux invités, Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom, fondée en 2005 pour défendre l'océan et ceux qui en vivent, et Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Frédéric Lemanac, l'un des arguments, là je parle aux scientifiques, souvent avancé pour limiter l'impact de la surpêche, et c'est de se dire finalement que l'océan est immense, que nous n'avons pas vraiment les moyens scientifiques de savoir ce qu'il y a sous l'eau et que, bah oui, on parle de quelques espèces qui s'éteignent, mais il y en a tellement qu'on ne connaît pas, c'est pas grave.
C'est une vision du monde qu'on ne soutient pas chez Bloom. Et en fait, on voit que même quand on va au fond de la fosse des Mariannes à 11 000 mètres de profondeur, on trouve des micro-morceaux de plastique. Donc on sait très bien, on est capable de voir notre impact sur l'environnement, sur les poissons. Et effectivement, après, nous, en Europe, on n'a pas forcément cette vision d'un océan qui est en train de s'appauvrir. Parce qu'on a un marché qui est assez dynamique, on a la possibilité d'acheter du poisson qui vient d'ailleurs. Et en Europe, par exemple, il y a 75% du poisson consommé qui est importé.
Donc on a un sentiment d'abondance.
On a un sentiment d'abondance, mais qui n'est pas du tout vrai. Et faites l'exercice chez vous de repenser aux poissons que vous aviez sur les étals de votre poissonnier il y a 20 ans. C'est pas du tout les mêmes que ceux que vous avez maintenant. Aujourd'hui, on a des poissons, on a du merlan bleu, on a du taco. C'est des poissons qui étaient, jusqu'à il y a même quelques années, réduits en farine pour engraisser les thons en Méditerranée ou pour faire du saumon d'élevage en Norvège. Et actuellement, il y a tellement plus de poissons dans l'océan qu'on considère que finalement, c'est des poissons qui sont bons et qui sont en fait très bons pour la consommation humaine, mais qui étaient vraiment réduits en farine, en huile jusqu'à il y a très récemment.
Et c'est cela qui fait que chaque décision qui va dans le sens de la surexploitation inquiète.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il parle de la mort. Comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Les îles Marquises, si chères à Jacques Brel, forment l'un des 5 archipels de la Polynésie française. Bonjour Déborah Kimitété.
Bonjour des îles Marquises, Kauanui.
Vous êtes vice-présidente de l'association de préservation de l'environnement des îles Marquises. Vous faites partie du collectif des citoyens qui se mobilisent depuis quelques semaines contre un projet de développement de la pêche industrielle. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit d'un projet qui a été lancé par une société privée, qui s'appelle la Société de Gage, et qui a donc l'intention de mettre en place 100 tonniers à terme dans la ZEE marquisienne et autour des îles Marquises.
Alors ce nouveau projet donc a été décidé par 6 maires des Marquises qui veulent donc développer cette pêche industrielle dans l'archipel, sauf qu'auparavant il était prévu quand même de plutôt développer une aire marine protégée et de classer le site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, le projet est toujours d'actualité et je pense qu'il faudra aussi leur poser la question aux élus de la commune, parce que c'est vrai que nous, collectif des citoyens des Marquises, nous avons du mal à comprendre cette incompatibilité qui existe entre le fait de demander la mise en place d'une aire marine protégée et à la fois de vouloir développer la pêche industrielle. Donc, ça nous paraît effectivement incompatible. Donc, je pense qu'il faudrait les interroger sur ce sujet. Nous, en tout cas, au niveau du collectif des Marquises, des collectifs des Marquises, aussi bien aux Marquises qu'à Tahiti, nous sommes contre ce projet parce qu'ils ne tiennent pas justement compte de l'environnement. Ils ne tiennent pas compte non plus de la préservation de l'espèce, puisqu'en fait, leur projet tient compte que de la pêche du thon obèse, d'une seule espèce. Et cette espèce est déjà surexploitée. Les scientifiques ont estimé qu'il ne restait plus que 16% de cette espèce dans le Pacifique. Donc, nous trouvons ça aberrant de vouloir développer cette pêche alors qu'on sait que cette espèce est en danger.
Alors le but, c'est donc de faire venir, comme vous le disiez, une centaine de thoniers pour ensuite exporter le poisson vers Hawaï et le Japon. Et ça sous-entend aussi des constructions d'infrastructures qui vont avec, des pots d'hydrocarbures, zones de marécage, etc.
Oui, tout à fait. Alors le projet n'est pas du tout prêt, puisqu'il n'y a rien pour l'instant, aucune infrastructure. Et heureusement, d'ailleurs, nous nous élèverons contre ces infrastructures, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc dans le projet, il est prévu effectivement un centre de marécage, des bateaux-usines, un affrètement d'avions Airfiti à destination de Tahiti, ensuite sur la Chine et le Japon et les États-Unis. Donc c'est plutôt à l'export et absolument pas sur le commerce local. Donc ce projet d'installation et d'infrastructure existe, mais pour l'instant, il n'y a rien. Rien n'a été démarré.
Donc la mobilisation bat son plein à ce moment. Une pétition circule, c'est cela ?
C'est cela. Il y a une pétition qui a circulé sur change.org, qui a recueilli 9000 signatures. Il y en a une autre qui est actuellement en cours sur Aval, qui est toujours en cours, donc qui continue à recueillir des signatures. Nous avons aussi lancé des pétitions sur l'ensemble des maquis et à Tahiti au moment des manifestations, puisque nous avons marché le 28 octobre pour Nukuriva, donc la plus grande île des maquis, et Tahiti, qui les maquisiens qui sont à Tahiti, et aussi les gens des Australes, parce qu'ils sont aussi concernés. La Polynésie est concernée, ça ne concerne pas que les maquis. L'archipel des Australes veut également mettre en place une aire marine protégée et nous attendons donc le pouvoir décisionnel du gouvernement de la Polynésie pour mettre en place ces aires marines protégées.
Merci beaucoup Déborah Kimitété et puis tenez-nous au courant de la suite.
Bien sûr, avec plaisir. Vous pourrez nous rappeler ou nous vous tiendrons au courant. Il faut savoir, juste pour donner un dernier exemple, que la zone des maquis, c'est la plus grande nurserie, c'est la seule nurserie des thons obèses du Pacifique. C'est la zone de reproduction. Donc c'est pour ça que nous nous battons, pas seulement pour nous, maquisiens, mais pour l'ensemble du Pacifique, puisque la chaîne alimentaire commence chez nous.
Merci beaucoup et comme on dit, ne lâchez rien. Yannick Jadot, cette actualité est à mettre en perspective avec les décisions annoncées par le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, la semaine dernière lors des assises de l'économie de la mer, qui parlait notamment de la volonté de passer de 22 à 32% d'air marine protégée d'ici à 2022. Et je cite toujours Nicolas Hulot, protéger les milieux les plus fragiles, soit 75% des récifs coralliens, etc. Donc on ne comprend pas très bien là.
Ah, il y a incontestablement un gouffre entre l'annonce et la réalité des îles Marquises, surtout que ça a été dit, les îles Marquises c'est loin, ça peut paraître exotique entre guillemets, mais c'est la Polynésie française. Donc il y a une responsabilité du gouvernement français dans cette affaire-là. Et trop souvent, ce qu'on arrive à développer sur les côtes métropolitaines en matière de protection de la biodiversité, c'est souvent insuffisant, mais on arrive à faire des choses. Quand on est sur l'ultramarin, c'est quand même la fête des prédateurs. Et ce qui est dramatique, là, on voit, en fait, c'est vraiment un conflit d'usage. Vous avez des pêcheurs artisans. C'est une des espèces de la mer qu'il faut absolument sauvegarder, les pêcheurs artisans, mais qui font vivre une économie locale, qui se font vivre eux, qui nourrissent leur famille et leur village ou leur ville. Là, quand vous rentrez dans une logique industrielle, non seulement vous butez tous les pêcheurs artisanaux parce qu'ils n'auront plus accès à la ressource, mais en plus, c'est plus du tout les mêmes qui gagnent de l'argent. On passe à l'industrie, on passe aux élus, on rentre totalement dans une autre logique qui est la prédation au service de quelques-uns contre le respect de la biodiversité pour le plus grand nombre. Et il y a une responsabilité énorme des autorités françaises à s'assurer que l'ultramarin, notre outre-mer, même s'il est loin, devient une zone absolument exemplaire de protection de la biodiversité. On a, je crois, le deuxième littoral mondial du fait de l'ultramarin et on ne peut pas le sacrifier comme ça, juste pour
pour des intérêts industriels, surtout quand on parle de frayères, là où effectivement naissent les poissons.
Alors je précise que j'ai fait une demande d'interview à ce sujet auprès du ministère de la Transition écologique qui n'a pas donné suite à ma demande. Frédéric Lemanax, c'est là aussi contradiction entre le discours et le terrain. Hein.
Effectivement, comme ce qui vient d'être dit, en fait, il y a une réalité sociale qui est catastrophique parce qu'on parle de créer une centaine de bateaux qui vont cibler une espèce qui est menacée dans le Pacifique. Donc déjà, il y a l'aberration écologique, mais surtout, comme ce que disait M. Jadot, quoi, ça va aller à l'encontre des pêcheurs artisans. C'est exclusivement pour l'export. C'est des bateaux qui sont bien sûr subventionnés. Il y a des défiscalisations qui vont être mises en place pour que ces bateaux ne soient pas payés par les armateurs, mais par les contribuables. Et donc, on se retrouve dans une situation où on va tuer les pêcheurs artisans, on va tuer l'économie locale pour enrichir quelques individus pour favoriser l'export en Chine ou au Japon.
Sachant que c'est en plus un écosystème particulièrement fragile, hein, comme Déborah nous le précisait.
Bien sûr, on est dans des écosystèmes très fragiles. C'est des zones qui sont à préserver. Donc bien sûr, on n'est pas non plus contre l'emploi. Il faut arriver à trouver des solutions pour créer de l'emploi et préserver les emplois déjà existants. Mais surtout, là, on est dans une zone où le thon obèse vient se reproduire. Et donc, c'est absolument crucial de protéger cette zone pour éviter justement que la population dans son ensemble, dans l'intégralité de l'océan Pacifique, ne s'effondre.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cepasduvent@rfi.fr.
Como dor de amor en modo chuva, el tadanachum, un planta novo tan nascer. Oi, como dor de amor que tem vocação. Oi, como dor de amor en modo chuva, el tadanachum, un planta novo tan nascer. Mar, vida perdida. Perguntou pra mim, enrolada à volta, negada a resposta. Tem vergonha de amar, a mata sofre, da mata e vive de dor, de amar e vive de dor, de amor.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des conséquences de la surpêche qui vide l'océan en toute impunité, ou presque, c'est le cas en tout cas au large des côtes ouest africaines. Bonjour Ibrahim Assissé.
Oui, bonjour Anne.
Est-ce que vous avez réussi à vous garer dans les rues très embouteillées de Dakar?
Oh oui, j'ai trouvé une petite place pour m'arrêter un peu.
Bon, alors c'est bon, on peut vous garder à l'antenne. Vous êtes responsable de la campagne Océan pour Greenpeace Afrique. Votre bureau vient de publier un rapport, Le coût de la destruction des océans, qui résume la mission que vous avez menée dans 6 pays de la côte ouest africaine pour observer justement la réalité de la pêche illégale. Et ce qui ressort, ce n'est pas très surprenant, mais c'est que la pêche illégale reste massive.
Oui, c'est le constat. Et la pêche illégale reste très présente. Peut-être pour vous donner une idée, les estimations sont à 40% des captures issues, réalisées, sont dans la zone, sont des captures INN. Donc illégales, non déclarées, non réglementées. 40% des captures. Et ça, sans compter qu'on a 50% des stocks sont considérés comme surexploités dans la zone. Donc avec 40% des captures issues de la pêche INN, 54% des stocks surexploités. Une pêche INN qui, entre 2010 et 2016, a entraîné des pertes de 1,9 milliard d'euros par an, juste dans la sous-région, donc en Sierra Leone jusqu'à la Mauritanie, autour de 300 000 emplois perdus, sans compter les personnes qui dépendent directement, parce qu'on estime à 1 million les personnes qui dépendent directement de la pêche, et 7 millions ceux qui se retrouvent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que du bateau au plateau, comme on dit, c'est-à-dire de la capture au mariage, de l'embarquement, au transport, à la transformation par les femmes, à la vente dans la sous-région, etc. Donc c'est vraiment un manque à gagner considérable pour les pays et le fléau ne semble pas...
Ibrahim Assissé, je suis désolée, on va être obligé d'interrompre notre conversation parce qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, je rappelle que vous appeliez à une coopération renforcée entre les pays, notamment en incitant à ce qu'il y ait une coopération sur les sanctions entre les différents pays. Et puis, vous rappelez la nécessité de faire prendre conscience aux décideurs de l'impact de se laisser aller. Vous nous avez donné quelques chiffres et pour bien comprendre la réalité que cela implique, je vous propose d'écouter le témoignage d'un pêcheur sénégalais qui, comme beaucoup de ses compatriotes, finalement, a changé de métier.
Issa Ndoué, je suis pêcheur depuis 1998, j'avais 18 ans. J'ai tenté de rallier les îles de Canaries là, c'était en 2006. À ce moment, j'avais 25 ans. Parce que en ce moment-là, vraiment avec la rareté du poisson, bon, je vivais par exemple une vie vraiment qui était dure pour moi. La pêche ne me permettait pas d'arriver là. Et pourtant, j'avais une pirogue là. J'avais une pirogue et un moteur. Et ça ne peut pas même me satisfaire de faire mes dépenses là. Chaque jour, il n'y a pas de poisson. Chaque jour, je pars à la pêche, mais je ne peux rien. Comme je rentre brodu. Je rentre brodu et que cela vraiment m'a affecté et m'a poussé d'aller vers l'Europe. Oui, j'ai parti avec d'autres aussi, d'autres beaucoup pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs aussi. Nous avions fait au début des cotisations de 400 000 francs CFA. Parce qu'il y a même des gens qui ne l'avaient pas, qui ont bazardé leur propre matériel de pêche. Après ça, on va préparer une pirogue neuve, on va acheter 3 moteurs, on va acheter aussi beaucoup de carburant et le ravitaillement. C'était vraiment très dur. C'était 7 jours et je suis arrivé aux îles de Canaries. On nous a apporté dans les camps de militaires. Et j'ai vécu là-bas 38 jours. Et après, on nous a expulsés. J'ai vraiment vu, mon père était pêcheur, grand-père aussi. Bon, la retraite, pour moi, la retraite de la pêche, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si tu es retraité, ton propre fils va essayer de prendre ta pirogue, de prendre ta place, et il va échapper aussi. Échapper, ça veut dire que tu vis vraiment toujours un quotidien qui n'est pas agréable. La vie de pêcheur aussi devient de plus en plus dure, parce que le poisson devient de plus en plus rare. De plus en plus rare.
Il est là.
Yannick Jadot, à travers ce témoignage, on comprend hein, que tout est lié finalement, mauvaise gestion des ressources, dégradation de l'environnement, migration.
Oui, absolument. Pour qui connaît un peu le Sénégal, notamment la ville de Saint-Louis, qui est un extraordinaire port de pêche avec une culture de la pêche magnifique. Ce sont des pêcheurs qui prennent de plus en plus de risques, ça a été dit. Ils restent de plus en plus de longtemps sur leur pirogue, y compris parfois dans des conditions sur l'Atlantique qui sont très mauvaises. Et de plus en plus, plutôt que de ramener la pêche, maigre pêche, au port, souvent ils la donnent à des bateaux-usines qui sont installés au large, qu'ils soient chinois ou pendant longtemps européens, qui prennent leurs poissons, qui les congèlent, ils les payent à peine. Et on est dans un système qui, à un moment donné, longtemps par notre pêche, les flottes européennes ont été pêchées et pris beaucoup de poissons sur les côtes africaines. Heureusement, là, cette année, on est en train de discipliner la flotte européenne pour qu'on évite cette prédation permanente. Enfin, mais il y aura toujours de la flotte européenne, et puis la flotte chinoise, et puis la flotte coréenne. Vous les ajoutez, ça épuise l'ensemble du poisson pour notre consommation, et finalement toutes ces populations-là n'ont plus accès à ce poisson-là, et puis les jeunes finissent par prendre leur pirogue pour migrer chez nous. Donc en fait, la boucle de la misère, elle est bouclée. Mais il faut aussi dire que sur ces navires qui pratiquent la pêche illégale, souvent les personnes, les pêcheurs ou les personnes, les marins à bord, sont aussi dans des situations de quasi-esclavage. Donc on est dans l'organisation de la misère pour quelques intérêts qui se foutent totalement et de la ressource et des pêcheurs. Et c'est à nous de nous discipliner un peu, vous l'avez dit, sur notre consommation. Mangeons ce qui vient de la pêche artisanale française, c'est déjà pas mal. Laissons aux Africains aussi leurs poissons, et puis réglementons toute cette pêche illégale qui est scandaleuse, qui vit de la corruption. Vous retrouvez les mêmes pays qui participent des paradis fiscaux, c'est toujours les mêmes pays à corruption qui à la fois suppriment toute ressource budgétaire pour l'État et puis suppriment les moyens de vie pour les populations.
Frédéric Lemanac, comment réagissez-vous à ce témoignage ?
Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. C'est vrai que c'est un cercle vicieux qui est assez dramatique, et nous on travaille sur la pêche, sur la surpêche, mais c'est pas, c'est ce qui nous excite, c'est pas de sauver le poisson, quoi. Ça, à la limite, on n'en a pas grand-chose à faire. Mais les implications sociales et économiques, elles sont dramatiques pour de nombreux pays, de nombreux pêcheurs. Et donc on voit bien, au travers de ces deux témoignages comme ça, que quand on surexploite une ressource, que ce soit du poisson ou une autre ressource naturelle, ça a des implications dramatiques pour les locaux. On perd des savoir-faire artisans, ça crée de l'immigration, ça crée de la corruption, ça déstabilise les pays politiquement et économiquement. Donc c'est pas du tout une bonne chose. Il faut absolument réussir à coopérer, à créer de la transparence aussi. La transparence, elle est absolument cruciale pour sortir de ce cercle vicieux et arriver effectivement à avoir une exploitation de l'océan qui est responsable, durable, et que chacun puisse vivre de son métier sans avoir à aller piller ou tuer le métier d'un autre, quoi.
Alors c'est vrai en mer et c'est vrai aussi sur terre. Demain, par exemple, dans C'est pas du vent, nous parlerons des modèles agricoles pour les pays en développement qui sont encore pour beaucoup à l'heure des choix. Cette semaine, l'Union européenne a manqué l'occasion d'envoyer un signal positif, Yannick Jadot, en prolongeant l'autorisation de l'utilisation du fameux glyphosate, cet herbicide jugé par certains cancérogène. Allez, c'est prolongé encore pour 5 ans.
C'est Monsanto, cette turpitude, sa corruption scientifique qui a gagné sur la santé grâce à la lâcheté des gouvernement européen et de la Commission européenne. C'est dramatique. Là aussi, pourtant, le Parlement européen avait envoyé le bon signal à la majorité absolue. Il faut sortir du glyphosate. Là encore, trop souvent, des lobbies gangrènent nos agences de sécurité des aliments qui sont censées protéger la santé et pas protéger les dividendes de Monsanto ou de Bayer. Et puis des gouvernements qui manquent terriblement, terriblement de courage.
Et le président français qui dit nous, on n'attendra pas 5 ans, on le fera en 3 ans, voire
il
moins.
Il a fait un tweet, tant mieux.
C'est le premier tweet sur l'environnement, je crois.
C'est le premier tweet depuis 6 mois. C'est la première décision favorable à l'environnement depuis 6 mois. C'est un tweet. Hein. On va voir ce que ça va donner. Les promesses, on connaît. Mais il aurait fallu qu'Emmanuel Macron, au moins, envoie plutôt qu'un tweet, un SMS à Angela Merkel. L'Allemagne n'aurait pas changé de position de manière abracadabrantesque le dernier jour. Et l'autorisation n'aurait pas passé. S'il y avait une tournée d'Emmanuel Macron ou Nicolas Hulot à l'échelle européenne, on n'aurait pas perdu. Et ça, je leur en veux.
Merci, merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Et merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.